Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h, c'est la crise. Et pourtant, chaque jour, nous découvrons des femmes et des hommes qui bâtissent déjà le monde de demain. À mes côtés, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à tous. Alors vous êtes nombreux à avoir des idées de création d'entreprise, mais souvent il vous manque ce petit conseil et puis surtout un petit peu d'argent. Eh bien aujourd'hui, on a la solution pour vous. Initiative France est un des principaux réseaux qui vous aide en France à créer votre entreprise. Son nouveau président, Guillaume Pépi, oui, vous connaissez son nom, est notre invité jusqu'à 14h.
Voilà, une en effet, Emmanuel. La création d'entreprise grâce à Initiative France. Une entrepreneur a pu développer son projet d'ombrière intelligente pour créer un microclimat pour chaque culture. C'est absolument révolutionnaire. Ça s'appelle Ombrea. On la découvre d'ici quelques minutes.
Alors, Initiative France, ce sont aussi des entreprises qui réussissent dans la durée. C'est le cas d'Orinox qui digitalise les usines aux quatre coins du monde. Une entreprise née de rien. Ce sera notre saga du jour aux alentours de 13h30.
Et bien sûr, les trophées Europe 1 chaque jour. Un entrepreneur vient nous présenter son projet. Aujourd'hui, nous avons retenu e-bike labs, un dispositif qui empêche de voler votre vélo électrique. Rendez-vous à 13h45.
En fin d'émission demain au travail, nous irons à Rennes. Le CHU de la ville a mis en place des bulles de repos pour son personnel soignant. Nous passerons un coup de fil au responsable du comité scientifique.
Elle est bienvenue dans La France bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
La France bouge, ce sont toutes ces entreprises petites et grandes qui innovent et font tourner la France, aussi grâce à des réseaux, à des associations organisées et structurées.
Bonjour Guillaume Pépi.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président d'Initiative France, ancien président de la SNCF. Parmi vos nombreuses casquettes, vous êtes membre du conseil de surveillance de Lagardère, propriétaire d'Europe 1. Alors, Initiative France, c'est un réseau associatif, 214 associations qui aident les créateurs d'entreprises. Vous les aidez grâce à des bénévoles du réseau présents partout en France. Et vous remettez justement ce soir pour la première fois des prix aux plus belles idées de création d'entreprise. Initiative France, Guillaume Pépi, ce n'est pas si connu. Comment ça fonctionne?
Alors, ça fonctionne de la façon suivante. À la base, il y a un homme ou une femme qui a eu une idée dans la tête. Et puis qui se dit, tiens, ça pourrait faire un emploi, le mien, voire d'autres emplois. Cette personne contacte une des associations, il y en a 214 en France, on trouve les adresses sur initiative-france.fr, et à ce moment-là, on rentre en contact avec l'association. Ce que va faire l'association locale, c'est qu'elle va vous aider à transformer l'idée en projet. Quel est le business plan, quelle est la trésorerie, quel est le plan commercial. Puis ensuite, il faut de l'argent, vous l'avez dit, Emmanuel Duteil. Là, l'association, elle va regarder votre projet et elle va peut-être, sûrement, si le projet est bon, elle va vous donner un prêt d'honneur. Et grâce à ce prêt d'honneur, vous allez à votre banque et vous allez obtenir un véritable emprunt. Le prêt d'honneur, c'est 10 000 euros. L'emprunt, ça peut être de l'ordre de 80 à 100 000 euros. Et enfin, une fois que l'entreprise est créée, il faut l'accompagner. Pendant 3 à 5 ans, il y a des parrains, des marraines qui vont vous aider à résoudre vos problèmes. Tiens, ça marche un peu moins bien que prévu, on a un problème de trésorerie, on a un problème fiscal, eh bien, on est là à vos côtés.
Ce qui est très important pour ceux qui sont là à la maison, en voiture, en train de nous écouter, c'est que c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut passer devant le jury. Après, ce qui est compliqué, c'est de convaincre le jury. Mais c'est ça l'idée, hein. C'est ouvert à tout le monde.
Il n'y a pas d'apport personnel, il ne faut pas avoir de l'argent. Justement, on vient chercher un prêt et toutes les idées peuvent être bonnes. Ça va de Ombrea, dont on parlera plus tard, à quelqu'un qui veut reprendre un commerce en centre-ville, en passant par quelqu'un qui veut ouvrir un club de sport, en passant par quelqu'un qui veut transformer une activité agricole en une activité bio, en quelque sorte, on est des incubateurs, mais généralistes, c'est-à-dire que tous les projets nous intéressent s'ils peuvent se transformer en entreprise et créer des emplois.
Il y a énormément de bénévoles dans votre association, mais qui les étudie? Parce que pour chaque projet, il faut quand même un minimum d'expertise.
Alors, il y a des salariés de cette association, de ce réseau associatif, un millier, qui viennent d'écoles de commerce, qui ont fait des études de gestion et qui vont vous aider à bâtir le dossier. Ensuite, le dossier est prêt. Et là, ce sont des chefs d'entreprise locaux, c'est-à-dire très proche du terrain, très proche des activités, qui vont discuter avec vous en se disant « Tiens, monsieur ou madame, Julie en l'occurrence, quelles sont ses chances de réussir ? Est-ce qu'on sent qu'elle a une motivation très puissante ? Est-ce qu'on pense qu'elle a on va dire, déjà la bonne idée qui va cartonner ? Est-ce qu'on pense qu'elle a besoin un peu d'un soutien en matière de gestion ou au contraire, un besoin d'un soutien en matière commerciale ? On va discuter de tout ça pour lui donner son prêt d'honneur.
Alors, avant de continuer à discuter avec vous, Guillaume Pépi, notre reporter Charlotte Barrican est allée promener son micro dans les rues de Paris pour revoir celles et ceux qui, peut-être, ont déjà eu envie de monter leur entreprise. On écoute.
Est-ce que vous avez déjà eu envie d'entreprendre ?
Ouais, c'est un projet qu'on a avec un ami à moi de monter notre boîte.
Bah pas vraiment parce que moi ça me rassure d'être salarié d'une entreprise et donc de fait je me sens pas les épaules pour.
J'ai de nombreuses idées, mais bon après comme je suis jeune c'est un peu compliqué de se projeter.
Moi non, j'ai pas spécialement envie d'entreprendre. Je trouve qu'aujourd'hui pour entreprendre justement il faut des idées innovantes, c'est pas forcément ce que j'ai.
J'ai l'impression que c'est très difficile de trouver des idées, de se démarquer pour faire en sorte que son entreprise prenne un peu d'ampleur.
Je suis pas du tout renseignée vraiment sur le sujet, mais pour moi c'est quelque chose de très très flou.
L'entrepreneuriat, je pense que c'est plus une façon de vouloir vivre sa vie. Dans le sens où c'est pas juste monter une entreprise, c'est vouloir être indépendant, vouloir vraiment décider de comment on va mener sa vie et s'épanouir d'un point de vue personnel.
Alors on l'entend, hein, Guillaume Pépi à la tête d'Initiative France, il y a beaucoup de doutes et on se dit souvent que c'est très compliqué parce que beaucoup de gens ne connaissent pas des réseaux comme vous. Vous n'êtes pas les seuls à faire ça, mais vous êtes un des gros acteurs. Déjà, comment c'est possible d'être si peu connu quand on est quand même sur le papier si utile ?
Alors, je trouve que le reportage est super bien fait parce qu'il montre toute l'ambiguïté. Il montre des envies, des gens qui disent « Ah, il faut avoir des idées, j'ai une idée peut-être », et puis une énorme inhibition. Mmh. Avec les deux questions, un, j'ai pas d'argent, sauf qu'il y a des solutions puisqu'on est là pour prêter de l'argent. Et puis deuxième réticence, oh là là, mais je vais pas y arriver, je vais me casser la figure. Sauf qu'on est là pour accompagner le projet. Mmh. Ce qui est formidable quand même, c'est ce jeune homme qui dit dans le reportage « C'est une façon de vivre sa vie ». De créer son job et des jobs pour les autres, moi je pense profondément que la création de sa propre entreprise, c'est la plus belle des aventures professionnelles, parce qu'on est indépendant et parce que c'est votre idée que vous allez concrétiser.
Et en moyenne, par an, vous créez, vous aidez à créer 20 000 entreprises.
C'est pas assez.
50 000 jobs créés.
Voilà, mais on peut faire le double. On peut faire le double. L'argent est là, les compétences sont là, il faut juste qu'on donne envie dans notre pays à des gens de se jeter à l'eau et de créer leur propre job.
Allez, vous allez continuer à nous donner envie de nous jeter à l'eau et de créer notre entreprise, Guillaume Pépi, président d'Initiative France. Vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et aujourd'hui dans La France bouge, on parle de ces entreprises qui se créent, de ces réseaux qui les aident à se créer, notamment Initiative France, un réseau associatif dirigé par Guillaume Pépi qui est notre invité jusqu'à 14h sur Europe 1.
Et encore une entreprise qui a été accompagnée par Initiative France, Ombrea. Bonjour Julie Davy-Copin.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice et la directrice générale d'Ombrea. Ombrea, ça existe depuis 2016. Elle est née à Aix-en-Provence et l'objectif de votre entreprise, c'est de sauver les cultures sensibles aux variations climatiques. Comment ? Grâce à des ombrières connectées. C'est quoi des ombrières connectées ?
Des ombrières connectées, ce sont des outils qu'on installe sur des cultures de plein champ. En gros, pour vous résumer, c'est vraiment toutes les cultures qui ne poussent pas sous serre. Donc la vigne, par exemple, l'arboriculture. Le système où on installe...
Les fraises, par exemple.
Les fraises, ouais. en extérieur, bien sûr. Donc on installe ce système au-dessus des cultures. Et le principe, c'est un peu comme des volets. Le système va s'ouvrir et se fermer pour moduler l'ombre au sol. Et en fait, en modulant l'ombre, on va pouvoir choisir le bon taux de lumière, la bonne température, la bonne humidité, adapté aux besoins des plantes en dessous pour faire en sorte qu'elles se développent le mieux possible, ce que le climat ne permet plus vraiment de faire aujourd'hui.
Ce qui est impressionnant, c'est la précision, parce que quand on a préparé cette interview, Elisabeth m'a dit, tu vas voir, c'est impressionnant, ça permet d'aller au degré près. C'est ça vraiment l'idée de la précision ?
Bien sûr, c'est hyper important d'être précis. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le changement climatique met vraiment à mal l'ensemble des exploitations agricoles aujourd'hui. C'est très compliqué. Les agriculteurs se lèvent le matin sans vraiment savoir ce qui va les attendre. En 20 minutes, il faut se dire vraiment qu'ils peuvent tout perdre à cause d'un aléa comme une averse de grêle, par exemple. Donc la précision est essentielle pour justement aller au plus près des besoins des végétaux qui sont extrêmement sensibles à la moindre variation climatique.
Donc c'est important de préciser, Julie, que vous étiez journaliste. Et en 2016, tout est parti, votre histoire entrepreneuriale, elle part aussi de votre propre histoire de vie. C'est-à-dire que vos parents, qui sont agriculteurs, ont tout perdu à cause de la sécheresse de 2016. Électrochoc total pour toute la famille. tout est parti en fumée. Et donc là, vous avez inventé l'outil, hein, vous avez inventé cette ombrière intelligente avec votre papa.
Exactement. Ombrea est née sur la table du petit déjeuner en septembre 2016, où on s'est dit tout simplement que l'outil que l'on cherchait pour protéger les cultures d'extérieur n'existait pas. On n'a pas réussi à le trouver, ou alors il y avait des gros défauts. Ce n'était pas du tout adapté, ce n'était pas du tout tech. L'agriculture aujourd'hui est en train de changer, mais les outils restaient quand même très traditionnels et peu adaptés à ce qu'on recherchait. Et c'est vraiment à partir de là qu'avec Christian, donc mon père, on a mis en place Ombrea. Un mois plus tard, on a justement déposé les statuts d'Ombrea et on a eu la chance d'être accompagné par Initiative France très vite, 6 mois plus tard. Ça a été d'ailleurs notre tout premier financeur et on en est vraiment ravis aujourd'hui.
Alors, on a entendu tout à l'heure qu'il fallait les convaincre. Ça a été compliqué de les convaincre, parce que quand on arrive, ancienne journaliste, papa agriculteur, le business plan, c'est peut-être pas ce qu'on savait le mieux faire dans la famille. Comment on arrive à le faire? Et en arrivant en se disant, on va vous vendre un projet qui, sur le papier, peut paraître une idée folle.
Oui. Alors, on n'y est pas allé pour vendre un projet, ça c'est important de le préciser. On y est allé justement dans une ouverture totale, en disant très clairement, on a une idée, on a
une solution en fait.
On a une solution, on connaît le marché, on connaît très bien notre marché, donc on sait que le produit va se vendre. Ça c'est déjà le premier argument. Et on leur a dit, accompagnez-nous, aidez-nous à construire ce dossier-là. On a besoin de fonds pour démarrer le projet. Autant vous dire que sans diplôme d'ingénieur, sans diplôme d'école de commerce, on n'était pas une famille non plus très riche, donc il fallait être accompagné. C'était indispensable, à la fois financièrement et sur le montage de dossiers, ce qu'ils ont réussi à faire sans aucun problème. Il a fallu travailler.
Aujourd'hui, le prêt qui est donné par Initiative France, c'est 10 000 euros. Et il paraît que c'est une forme de sésame, parce que quand on arrive à la banque derrière, on a déjà le label d'une certaine manière. Et la banque, on sait que des fois, c'est pas toujours simple de les convaincre non plus, mais c'est un poil moins compliqué quand on arrive avec ce sésame. Est-ce que c'est vrai?
Bien sûr, ça a énormément aidé. Nous, cet accompagnement d'initiative nous a permis vraiment d'appuyer sur le bouton qui a permis de déclencher l'ensemble des financements derrière. Ça nous a permis aussi de financer notre tout premier prototype et donc de montrer que ça fonctionnait, en fait. Donc, de fil en aiguille, on a pu montrer vraiment la pertinence de notre outil, de notre système, montrer des résultats. Et c'est comme ça qu'on a pu, à terme, on est aujourd'hui à 4,2 millions levés en 3 ans et demi. Ce qui est quand même conséquent. Et
4 millions d'euros.
Oui.
Il faut le dire.
3 ans et demi, oui.
Du coup, ça cartonne.
Ça cartonne, oui, on est content.
C'est ça qu'il faut entendre dans la France Bouge aussi. Ici, on n'a pas honte de réussir. Ouais.
Mais on vient du milieu agricole, on est toujours très terre à terre. Donc pour nous, vraiment, tout reste à faire. On a tout à prouver encore, on est très jeunes.
Ça part bien.
Mais on est très fiers quand même de ce qui a été fait. Oui.
Guillaume Pépi, président justement d'Initiative France. Ombrea, ça remplit tous les critères pour pouvoir être choisi et sélectionné pour Initiative France?
Non seulement ça remplit tous les critères, mais ça va au-delà, parce que la dimension environnementale est super importante. Ces ombrières, elles vont produire de l'énergie à coût zéro. Elles vont économiser de l'eau, puisque ça permet de rattraper de l'eau et qu'elle soit bien distribuée sur la parcelle. Et enfin, ça permet d'éviter de gâcher des cultures, de jeter des choses, qu'elles soient brûlées, ou etc. Donc, au total, c'est vraiment un projet qui sert le territoire, qui fait du bien au territoire, qui fait du bien à l'environnement, qui fait du bien aux gens, qui fait du bien à la santé. Donc c'est un peu emblématique des projets de demain, où les projets seront beaucoup plus tournés vers la transition écologique et vers l'intérêt du territoire.
Justement, comment se partagent un peu les projets aujourd'hui? Parce que là, on le voit, on a une vraie entreprise qui va peut-être avoir un jour une très grosse taille, mais ça va aussi bien du petit café du coin, de la petite épicerie qui va utiliser des produits locaux. Comment ça se partage aujourd'hui du côté d'Initiative France?
Alors, vous avez des projets industriels, pas assez, mais il en faut. L'autre jour, par exemple, à Valence, quelqu'un qui est un ouvrier spécialisé dans l'entretien des machines-outils et qui dit tout d'un coup, mais ces machines-outils, ça va se développer, je vais transformer mon job et je vais devenir conseil en commande et en utilisation de machines-outils. Il crée sa boîte à partir de son expérience d'ouvrier spécialisé en machines-outils. À l'autre bout, vous avez dans les quartiers des gens qui se disent, pendant le Covid, il a bien fallu faire jouer la solidarité dans le quartier et il a bien fallu porter aux gens des choses qu'ils ne pouvaient plus aller chercher. Et avec juste un petit tricycle, avec un petit vélo cargo, on apporte les marchandises. Donc les métiers sont infinis.
Ils sont en train de s'inventer en fait en ce moment.
Mais ils sont en train de s'inventer. Une nouvelle économie est en train de s'inventer et nous tous,
et vous voyez de plus en plus de projets verts arriver du coup.
Ah oui, c'est clair. C'est clair, il y a de l'envie là-dessus, à la fois de gens qui veulent produire et des gens qui veulent consommer de façon plus responsable.
Des nouveaux métiers sont en train de s'inventer. On continue à en parler avec vous, Guillaume Pépi, président d'Initiative France.
Vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et avec Elisabeth, on est ravis chaque jour d'être à vos côtés dans La France Bouge jusqu'à 14h aujourd'hui avec Guillaume Pépi, le président d'Initiative France, qui aide du coup des projets à se monter, réseau d'associations qui poussent et qui aident les créateurs d'entreprises. Alors, est-ce que Guillaume Pépi, la période actuelle, le Covid, pousse les créateurs d'entreprises à se lancer? Est-ce que ça fait venir de nouveaux projets?
Ben oui, parce qu'il y a des gens qui se trouvent dans des plans de sauvegarde de l'emploi, dans des plans de départ volontaire, ou des gens qui sortent de leur diplôme et qui ne trouvent pas les offres d'emploi qu'ils auraient trouvées l'année dernière. Mmh. Et donc, une petite partie d'entre eux ou d'entre elles se disent, mais après tout, puisque j'ai un projet dans la tête qui me trotte, est-ce que je ne devrais pas me lancer? Si ça se trouve, ça va marcher et je vais en faire mon projet professionnel. Donc, je pense que là, depuis quelques semaines, on voit se multiplier partout. Je pense à Lille, je pense à Nantes, je pense à Marseille, des nouveaux projets qui sont un peu liés ou un peu nés de la crise du Covid et de la réorientation de l'économie. Mmh. Donc c'est plutôt encourageant. Ça veut dire que d'une crise, il peut y avoir un bien.
Ce sont des projets d'opportunité, mais ils ont une durée dans le temps?
Alors, il faut voir que sur 100 projets qu'on aide, 3 ans plus tard, il y en a 92 entreprises qui continuent leur activité. C'est énorme. Mmh. Évidemment, 100% ne peuvent pas continuer parce que l'économie, ce n'est pas des mathématiques. Parfois, on se trompe en marketing, parfois, on se trompe en gestion. Mais c'est quand même très encourageant. Ça veut dire que quand on a un projet et qu'on est bien accompagné, bah, l'entreprise vit.
Alors, on ne le dit pas souvent assez, hein, mais créer son entreprise, c'est aussi se créer son propre emploi. Donc, généralement, dans des périodes de crise, il y a pas mal de création d'entreprise parce que c'est une manière de se lancer. Quel est du coup, d'après vous, le profil aujourd'hui des créateurs d'entreprises que vous allez avoir? Est-ce que ça va évoluer? Est-ce que vous allez avoir des gens qui sortent des plans sociaux plus que ce que vous en aviez
jusqu'à présent,
avant?
Oui.
Peut-être, mais ce qui est formidable, quand on voit les comités de prêts partout, on était à Mantes, on était à Valence, on était à Châteaubriand, c'est que c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. L'autre jour, j'ai été frappé. Une dame qui avait fait de la garde d'enfants, qui avait fait des ménages, du repassage, etc. Puis tout d'un coup, à moins de 50 ans, tout d'un coup, elle se dit, je vais créer ma boîte. Au début, je serai toute seule, mais je prévois déjà une embauche dans moins de 6 mois. Et très ambitieuse, elle a dit, d'ici 2-3 ans, il y aura probablement une quinzaine de salariés dans l'entreprise que j'aurai créée. Et je pense que cette personne-là, elle avait juste au cœur d'elle-même, elle avait l'envie de devenir, en quelque sorte, sa propre patronne.
Elle avait l'envie, elle avait la volonté, mais ce que l'on ne sait pas assez, c'est que la singularité de votre réseau, c'est qu'une fois qu'on a l'idée, on est accompagné. On est accompagné pour la trésorerie, qui est franchement pas toujours simple, pour la fiscalité, sur les questions de business plan, tout ça, il y a une espèce de maillage prévu pour l'entrepreneur.
Et ça, c'est l'action non seulement des salariés, des associations, mais des bénévoles. Les bénévoles, il faut leur rendre hommage. Il y a 20 000 personnes sur tout le territoire. Ils sont eux-mêmes chefs d'entreprise et ils vont aider d'autres personnes à créer leur entreprise. Ils vont consacrer du temps, de l'énergie, pour que toutes ces petites pousses deviennent localement d'autres nouvelles entreprises.
Mais c'est un accompagnement qui a une durée de combien de temps?
Alors notre rêve, c'est de faire de l'accompagnement à vie, parce qu'une entreprise, ça croît, ça augmente, etc. Pour l'instant, on fait un accompagnement à 3 à 5 ans, c'est mais déjà... on va essayer de pousser plus loin.
Et un accompagnement à vie, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous y aurez une sorte de tuteur permanent?
Non,
c'est
pas
ça que
tuteur,
vous auriez...
mais des gens qui sont en quelque sorte des ressources qu'on peut appeler pour leur demander de l'aide, pour leur demander un conseil. Vous savez, pendant la crise du Covid, tous nos entrepreneurs, ils ont été extrêmement sympas et redevables parce qu'on les a appelés au téléphone, on leur a proposé de venir les rencontrer, de discuter entre entrepreneurs des mesures qu'ils prenaient, comment on demande un prêt garanti par l'État, comment on demande le fonds d'urgence, qu'est-ce qu'on peut demander à la région. Vous savez, la solidarité entre les entrepreneurs, ça marche.
Comment vous vous financez? On disait tout à l'heure que vous donniez un prêt de 10 000 euros. D'où vient l'argent?
La Banque publique d'investissement, la BPI, qui est une banque formidable. Les autres banques, évidemment, qui font des prêts, mais aussi les régions, les intercommunalités, et puis aussi l'État et l'Europe. Donc tout le monde met la main à la poche et il y a de l'argent pour financer aujourd'hui davantage.
Vous n'en manquez pas malgré le Covid aujourd'hui?
Alors, Initiative France, on le voit depuis le début de l'émission, elle fait naître des talents, des pépites. Et justement, nous sommes avec Maxime Fourreau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG d'Orinox. Orinox, vous créez des doubles numériques d'ouvrages industriels. Hein, c'est assez complexe. En gros, vous digitalisez les usines aux quatre coins du monde. Et vous aussi, vous avez un parcours d'entrepreneur totalement atypique, puisque vous êtes autodidacte.
Oui, tout à fait. On peut le dire.
Complètement. Vous avez créé votre entreprise alors que vous étiez au chômage. Hein, c'était en 2008. On est en pleine crise financière. Aujourd'hui, 180 salariés partout en France ainsi qu'aux États-Unis. Mais comment naît votre idée?
Année en fait, vraiment en fait d'un besoin mais de digitalisation. J'ai ça depuis, j'ai l'impression, à l'enfance, enfin, du moins à l'adolescence. Un de mes premiers projets en fait de digitalisation, c'est la digitalisation de mon lycée. On est en 98, donc on est Google n'existait pas. Donc faut vraiment remettre. Enfin, les gens étaient sur le Minitel. Moi, je travaillais en fait. Enfin, donc j'ai un niveau bac scientifique, mais j'ai pas mon bac.
Comme quoi, on peut très bien réussir sans le bac.
J'ai tenté trois fois, mais ça passait pas. Voilà.
Donc, mais grâce à ça, vous avez eu
projet,
la ressource.
C'était vraiment la digitalisation en fait, de mon lycée. Donc, digitaliser les agendas des professeurs et des cours, l'ensemble des livres à l'intérieur du lycée. Vraiment, ce qui aujourd'hui paraît complètement naturel, en fait. Voilà. 25 ans après, ça se rend quelque chose que tout le monde a. Donc, je n'ai pas eu mon bac. J'ai eu la chance, en fait, qu'une société d'intérim et mon oncle, en fait, me poussent, en fait, à aller vers l'industrie en tant que soudeur-tuyauteur. Donc ça m'a permis, à un moment, de trouver un métier, de trouver une vocation dans la technologie aussi. Enfin, dans
et
tous
trouver
les cas,
un environnement de travail.
Et un environnement de travail, voilà, tout à fait.
Et vous avez, comme ça, je crois, travaillé pendant 3 ans chez un constructeur d'usine. Et c'est là où vous vous êtes dit, ma passion et ce que je suis en train de faire me montrent qu'il y a sûrement... une aventure entrepreneuriale derrière.
Un business, donc ça a été d'abord le retour via l'AFPA, donc vers
qui
une formation professionnelle
formation.
En fait, de dessinateur industriel. Donc là, on a le retour vers l'informatique. Et puis ensuite, vraiment le travail dans un bureau d'études, dans la conception, et puis m'apercevoir qu'en fait, il y a vraiment en fait, un autre niveau qui est la digitalisation des usines pour
Alors, pas de bac, une petite expérience. Comment vous êtes allé avec votre dossier sous le bras? Comment vous avez vendu, entre guillemets, votre projet à Initiative France? Comment vous avez été accompagné? Comment on arrive à convaincre?
Alors, ça a été vraiment par l'intermédiaire en fait, de mon comptable, de Ficamex, sur Châteaubriand. Et vraiment, en fait, préparer le dossier avec eux, donc accompagner un dossier qui était très ambitieux, avec la vocation de créer une structure de 30 personnes au bout de 3 ans. Donc le travail et ce qui a été tout démontré en fait, c'était la réalité économique en fait du modèle et de la possibilité. Et le réseau, en fait, par l'intermédiaire justement en fait de cette commission, m'a suivi. Donc il y a eu plusieurs étapes et ça a permis derrière de lever des fonds au niveau de la banque. Mais aussi de rendre le projet crédible vis-à-vis de nos clients, en fait, et de démarrer très rapidement.
Elisabeth le disait, aujourd'hui, 180 salariés en France, aux États-Unis. Quand vous vous retournez, vous vous dites « Waouh, j'y croyais pas que c'était possible » ou finalement, vous vous dites « C'était prévu ».
C'est compliqué. J'y croyais vraiment et c'était prévu, en fait. Mais de dire que le rêve est devenu la réalité, c'est vraiment formidable.
Guillaume Pépi,
c'est grâce à l'initiative.
Oui, justement, c'est un exemple, un autre d'Initiative France. On le voit à chaque fois, il y a une histoire personnelle, il y a souvent un échec aussi, il y a une déception dans les parcours de tous ces entrepreneurs que l'on
écoute.
Oui,
pas que, parce que Maxime n'a pas le bac, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il a eu une idée formidable, qui est qu'il y avait un besoin de digitalisation, il l'a transformée en projet, en entreprise. Mais l'autre chose qui est très importante, il l'a dit d'un mot, c'est que l'entreprise a son siège à Châteaubriand, en Loire-Atlantique.
C'est à 3 quarts d'heure de Nantes, pour ceux qui ne s'y situent pas.
Et donc, pas besoin de s'installer dans une très grande ville, une très grande capitale pour créer son entreprise et pour la développer.
Ça, c'est un conseil que vous donneriez. C'est important de s'éloigner un petit peu et d'être...
Moi, c'est tout à fait un conseil que je donne. Et donc, on a créé, avec Initiative et puis la Comcom sur Châteaubriand, en fait, un réseau avec un incubateur. Et vraiment, moi, c'est ce que j'ai vécu et je pense que c'est une réalité. On a une vraie proximité en fait, en ayant hors de ces grandes métropoles. On a vraiment la disponibilité. Tout le réseau est disponible. En fait.
Ce que Guillaume Pépi, ce qui est important, on disait tout à l'heure, 214 associations pour Initiative France. C'est-à-dire que vous êtes dans de très très nombreuses villes. Pour ceux là encore qui nous écoutent à la maison en voiture et qui se disent tiens, je veux créer ma boîte et qui habiteraient un peu loin d'une grande ville, il y a obligatoirement Initiative France pas très très loin.
C'est ça l'idée. Il faut un ancrage local à Châteaubriand, à Mantes, à Valence, mais il faut aussi une expertise nationale parce qu'on a besoin de temps en temps d'expertise pointue pour voir si un projet a des chances de se développer. Donc c'est le mariage de tout ça avec en plus du bénévolat économique. Et ce qui est formidable pour tous les contribuables que nous sommes, c'est que l'emploi créé revient à 1300 euros. Puisque les bénévoles font le travail, par définition, gratuitement. Et que les prêts sont remboursés dans 93% des cas. Je vous le disais, donc c'est un système qui non seulement donne des résultats, mais qui est très économe pour la collectivité.
Merci en tout cas Maxime Fourreau. Je rappelle que vous êtes le PDG de Orinox et bravo pour votre parcours d'entrepreneur. 180 salariés en France et aux États-Unis. On vous félicite. Guillaume Pépi, vous restez avec nous. Vous êtes le président d'Initiative France.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
On espère que vous passez un très bon moment avec nous sur Europe 1 à l'écoute de la France bouge avec notamment Guillaume Pépi, le président d'Initiative France. Alors, plus que jamais, notre invité est connecté avec ce qui va arriver avec nos trophées européens, puisque là aussi on parle création d'entreprises, on parle de toutes ces entreprises qui osent, qui se lancent et qui chaque jour viennent pitcher devant l'œil attentif de notre grand patron du jour.
Et c'est ce que vous allez faire, Maël Bosson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de eBike Labs.
Ça vous fait plaisir.
EBIKELABS. eBike Labs, ce sont des logiciels qui empêchent le vélo de se faire voler. Vous allez tout nous expliquer, Maël. Vous avez 34 ans, vous êtes situé à Grenoble et je vais vous laisser nous raconter la suite. C'est parti, vous avez 1 minute 30.
Merci. Donc, à savoir que les statistiques de vol en France sont effrayantes. Par exemple, le Vélib, 18 000 vélos, environ 18 000 vélos volés chaque année. Et donc maintenant qu'ils sont électriques, les coûts sont encore plus importants. Donc chez eBike Labs, on propose en effet une solution qui permet de réduire de 25% les intentions de vol. Et en fait, c'est une intelligence artificielle placée au cœur du logiciel embarqué du vélo qui permet de détecter le vol et de l'immobiliser, de détecter les pannes et d'en faciliter la maintenance et de remplacer des composants mécaniques et électroniques par du logiciel. Donc avec moins de pièces, le vélo est moins cher à la fabrication, il est plus robuste, donc moins cher au kilomètre, et il se fait moins voler, donc il dure plus longtemps. Donc nous avons pu développer cette solution grâce à l'engagement de 100 premiers actionnaires il y a 3 ans. Et maintenant, pour commercialiser notre solution à grande échelle dans toute l'Europe, nous proposons donc l'opportunité à tous d'investir dans notre société via la plateforme WeSeed. Donc sur WeSeed, W-I-S-2-E-D, vous pouvez découvrir notre projet, nous poser directement des questions et pourquoi pas donc nous rejoindre dans cette grande aventure au cœur de la transformation de la mobilité et des enjeux de la transition énergétique actuelle.
Voilà, bah voyons, on vous a même laissé conclure. Bravo déjà pour ce pitch.
Alors, chaque jour, votre dossier, les dossiers des pitchers, comme on dit, est passé au crible d'une experte. Cette experte, c'est Nathalie Carré de la CCI France qui est en charge, qui accompagne les créateurs d'entreprises à la Chambre de commerce et d'industrie. Vos forces, vos faiblesses, on l'écoute.
Alors, 3 points positifs pour l'entreprise eBike Labs. D'abord, on est sur un marché en croissance. 338 000 vélos électriques vendus en 2018 et 388 000 en 2019 et la croissance continue en 2020. Deuxièmement, une loi qui favorise fiscalement la création de flottes de vélos électriques au sein des entreprises. Et puis, enfin, une solution anti-vol qui semble plus efficace que le U qu'on attache à la roue du vélo. En revanche, un point amélioré, évidemment, c'est la technologie, car vous devez être aux côtés des fabricants de vélos. La vente serait certainement plus aisée si votre système pouvait se pluguer sur n'importe quel vélo électrique, un peu comme une clé. Tant que la personne qui veut démarrer son vélo n'a pas validé un code ou autre sur son smartphone, les roues restent bloquées. Peut-être que vous allez devoir réfléchir à une nouvelle solution à co-construire avec vos futurs clients entreprises.
Maël, vous répondez quoi à Nathalie parmi ces recommandations et ces suggestions ?
Donc déjà, j'apprécie les points positifs, bien sûr. Et donc c'est vrai que c'est une bonne question, en effet, de pouvoir activer notre solution sur des vélos existants. Et c'est en fait l'enjeu du financement actuel. C'est justement d'une part, de déployer notre solution pour en prouver la valeur, le retour sur investissement pour nos clients, qui va être très important. Et d'autre part, c'est s'intégrer en fait directement via des fabricants de vélos, via des fabricants de systèmes de motorisation, pour que notre solution soit préintégrée dans des vélos qui sont fabriqués. Et c'est ce qui fait qu'on peut en fait passer à l'échelle et atteindre des revenus importants. C'est une fois qu'on sera directement intégré dans des nombreux vélos de série. Évidemment, là, on a un facteur d'accélération qui va être très important.
Guillaume Pépi, je rappelle que vous êtes à la tête d'Initiative France, un réseau qui permet justement d'aider les créateurs d'entreprises. Est-ce que si Maël était passé devant vos jurés, vous assistez vous-même, vous n'avez pas le droit de voter, mais vous assistez souvent à ces jurys, vous auriez poussé pour qu'ils puissent avoir un financement ? Vous trouvez que l'idée est bonne ?
J'ai pas vu le business plan, j'ai pas vu tout ça, mais ce que je ressens, c'est deux choses. C'est d'abord une très, très grande compétence et une très grande détermination. Et ça, c'est deux qualités qu'il faut pour se lancer. La seule chose qui est vraiment nécessaire pour se lancer, c'est d'avoir une idée en tête. Alors parfois, c'est presque une obsession. Les gens y pensent depuis des années, ils caressent l'idée, ils la modèlent. Mais ça, c'est la base. Et c'est vrai, quand on discute tous les uns et les autres ensemble, très souvent, on trouve 3-4 personnes qui disent « mais moi, j'aimerais bien faire
J'aimerais bien créer une boîte de. J'aimerais bien. Ben maintenant, ce qu'on peut savoir, c'est que c'est possible en France parce qu'il y a moyen d'avoir de l'argent sans apport personnel et il y a surtout moyen d'avoir un accompagnement dans la durée pour que la petite pousse devienne grande. Et ça, c'est très rassurant.
Maëlle, est-ce que vous pourriez adapter votre logiciel aux trottinettes électriques ? Puisque bon, le vélo électrique, c'est bien, mais il y a d'autres moyens de mobilité douce comme la trottinette. Est-ce que ce serait envisageable ?
Donc, c'est des choses qui sont envisagées en effet à moyen long terme et qui font qu'on a un grand potentiel de croissance. Parce qu'on a donc notre cible prioritaire qui sont donc toutes ces flottes de vélos. On va vraiment chercher à optimiser la lifetime value. Mais derrière, il y a beaucoup d'autres applications possibles avec le cœur de technologie qu'on développe.
Vous disiez, vous êtes en plein lancement de la campagne de financement participatif sur WeSeed. Je crois même que vous débutez aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que vous en attendez ?
Donc exactement, donc la campagne a démarré il y a 2 heures, donc il y a déjà à peu près 3 personnes qui ont souscrit.
Mais là, vous allez voir, vous allez sortir du studio.
En sortant, c'est des millions.
Et en fait, ce qui est extrêmement important, en tout cas pour nous dans notre parcours, c'est que quand on a démarré au tout début, on a très rapidement eu 10 clients et en fait, ils ont presque tous investi. Ensuite, on a été plus connus, on a 100 personnes, 100 particuliers qui se sont engagés en tant qu'actionnaires et qui ont amené de l'argent, mais qui ont aussi amené beaucoup de compétences, de conseils. Et c'est vrai que pour rejoindre donc, ce que fait le réseau, c'est vrai que moi, j'étais vraiment très surpris de voir que les dirigeants sont en fait très accessibles du moment où on a un vrai projet, qu'on est passionné, qu'on se donne à fond. Voilà, cette ouverture m'a beaucoup surpris et nous a beaucoup aidé. Et donc le fait de passer à 1000 actionnaires, ça nous donne vraiment confiance pour la suite, au-delà de la partie financière qui est évidemment très importante, parce qu'on sait que c'est aussi 1000 soutiens.
Et vous dites que votre idée, c'est la bonne.
Et voilà, et ça, quelque part, c'est très encourageant pour la suite. Oui.
Merci à vous, ça s'appelle eBike Labs. Merci à vous, Maëlle Bosson.
Et si vous avez vous aussi un projet, si vous avez envie d'être challengé par notre patronne ou notre patron du jour, eh bien c'est très simple, vous pouvez envoyer votre candidature sur notre boîte mail e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidates et candidats en route pour les trophées Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duterte.
La France bouge, dernière partie de votre émission avec notre séquence, comme chaque jour, demain au travail. Et on est toujours pour cela avec notre patron du jour, Guillaume Pépi, qui est à la tête du réseau Initiative France qui permet de créer des entreprises.
Et demain au travail avec vous, docteur Karim Boudjema, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien et vous êtes responsable du comité scientifique du fonds de dotation au CHU de Rennes. 8000 personnes, de 8 à 10, jusqu'à 10 000 personnes dans votre CHU. Et votre idée, elle est née pendant la période mars-mai, confinement, où les hôpitaux étaient sous très haute tension, les soignants en première ligne. Et là, vous vous êtes dit, il faut que les soignants puissent se reposer dans un autre espace que la traditionnelle salle de repos, pas toujours très confortable. Et là, vous avez trouvé une solution. Je vous laisse nous la raconter.
Absolument, nous avons trouvé une solution, celle d'offrir des cocons à sieste. Ce sont des chaises longues, parfaitement matelassées, extrêmement confortables, avec en tête de fauteuil une espèce de capote rabattable qui permet à celui qui utilise ce cocon à sieste de s'isoler complètement. Alors, je ne sais pas si vous avez idée de ce qu'est une salle de repos dans un hôpital, mais c'est en général un carré assez réduit avec une table et 4 chaises. Et là, ça a amené tout de suite un confort incroyable qui nous a permis de manifester notre solidarité vis-à-vis de tous les soignants qui ont été au contact de la vague Covid que vous connaissez.
Alors, je crois que malheureusement, pour le moment, il y a quand même un mais, même si on essaye toujours de regarder le verre à moitié plein dans la France bouge, il n'y en a pas beaucoup pour les soignants. Vous avez 5 à 6 cocons, c'est ça qui ont été déployés pour le moment ?
Nous avons 5 à 6 cocons qui ont été déployés. Il fallait au départ tester ces cocons. Ils ont un succès fou, ces cocons. Et la vague suivante, si je puis m'exprimer ainsi, arrive. Nous allons avoir 5 à 6 nouveaux cocons qui vont être déployés dans les services d'urgence, de réanimation, pour permettre aux soignants, quel que soit leur grade, quelle que soit leur fonction, de prendre un temps de repos au moment les plus chargés de la journée ou de la nuit.
Alors vous nous dites qu'ils sont très confortables, mais je crois que vous avez avoué à nos équipes qui ont préparé avec vous cette interview, vous n'avez même pas eu le temps de les tester tellement qu'ils sont toujours pris d'assaut.
Absolument. Les 2 fois où j'ai voulu aller les tester, il y avait quelqu'un dedans.
Il va falloir s'inscrire.
Je n'ai pas osé les déranger. Ces cocons sont livrés avec une espèce de mode d'emploi, une espèce de logiciels, de ces applications qui permet d'éduquer ceux qui les utilisent au repos, à la petite sieste réparatrice et salvatrice.
Là, on le voit, c'est quelque chose de très important à destination de ce personnel hospitalier qui a été tellement sous tension pendant la crise et qui, semble-t-il, le revient là fortement avec cette deuxième vague qui est sur la France en ce moment. Est-ce que vous avez développé d'autres initiatives ? Parce que ça, c'est super, mais c'est vrai que c'est peut-être pas assez pour aider tous ces soignants si fatigués pendant ces journées de travail si longues.
Écoutez, pour l'instant, on va essayer de mener ce projet-là jusqu'à...
Ça doit être bien accueilli, en plus.
Très bien accueilli, très bien accueilli. C'est pris comme un geste de solidarité de la part de notre direction et de son fonds de dotation nominé envers le personnel qui se donne toujours beaucoup, beaucoup pour les malades Covid, mais tous les autres malades d'ailleurs.
Merci à vous, docteur Karim Boudjema. Guillaume Pépi, le bien-être au travail, on l'entend, c'est quelque chose que vous retrouvez en ce moment dans les dossiers que vous recevez ? À Initiative France.
C'est sûr que les entreprises sont en train de se transformer et les futurs entrepreneurs, ils ont bien en tête qu'une entreprise ne peut pas réussir contre ses salariés, ne peut pas réussir contre l'environnement et ne peut pas réussir contre le territoire. Donc, il y a une transformation des entreprises françaises qui est en cours. Mais nous, au réseau Initiative France, on a besoin, je le dis dernière fois, on a besoin de plus de bénévoles. On a 20 000 bénévoles aujourd'hui. On cherche des gens d'entreprise, des responsables d'entreprise qui ont envie de s'impliquer au service de la création d'entreprises, de l'entrepreneuriat. Et tous les renseignements sur les associations sont disponibles sur le site qui est initiative-france.fr. Et j'en profite pour dire que notre site change ce soir. Donc on aura enfin un site beaucoup plus ergonomique et beaucoup plus facile à utiliser.
Eh bien, en tout cas, un grand merci à
merci
vous, Guillaume
Pépi.
Vous noterez qu'on a réussi à la prouesse de ne pas vous parler de la SNCF pendant une heure sur Europe 1. Et ça, c'est à noter aussi.
Merci à vous. On se retrouve demain, Emmanuel Duteil, à 13h pour une nouvelle France Bouge. On parlera de quoi ?
Eh bien, on va prendre notre petit déjeuner ensemble, Elisabeth, demain, puisqu'on sera
un peu tard,
notamment un peu tard, mais il n'est jamais trop tard pour prendre un bon petit déjeuner. On sera avec le patron de Malongo.